Salut à tous. C'est toujours une joie pour Priscilla et moi-même de venir dans l'église de Saint-Maur prendre ce temps avec les bien-aimés frères et sœurs, étudier la parole de Dieu. Et juste pour vous donner un peu des nouvelles de ce qu'on devient, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger quelques fois avec vous. Donc aujourd'hui, avec Priscilla, on est à l'église de Lagny-sur-Marne, donc qui se situe pas très loin de chez vous. Donc, normalement, on met 20 minutes pour venir ici, mais aujourd'hui, on n'avait pas de transport, donc on a dû aller jusqu'à Vincennes, puis revenir à Saint-Maur, et que Alain nous a cherché avec grande joie. Merci à toi encore, Alain. Et donc voilà, on s'est engagé là-bas, donc en tant que couple pastoral, donc avec un autre pasteur, Philippe Moore, et on est vraiment réjouis d'être là-bas. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à prier pour l'église de Saint-Maur, venir être invité chaleureusement, pour pouvoir apporter la parole, et surtout pour pouvoir grandir ensemble, puisque c'est quand même ce qu'on vise tous ensemble, ressembler à Jésus-Christ. Donc que ce soit dans l'église locale, que ce soit autour de nous, c'est encore ce qu'on veut faire ensemble. Et donc c'est vraiment une joie pour nous de le faire avec vous. Et on va lire effectivement Timothée. C'est vraiment sympa Timothée, j'aime beaucoup Timothée, l'épître aux Timothée, parce que c'est Paul qui parle à son enfant spirituel. Timothée, c'est, d'après ce qu'on comprend, c'est un garçon assez timide. C'est fragile à côté du Paul. Il se fait lapider, Paul, et puis revient dans la ville, vous savez. Ça, c'est le genre de Paul, quoi. Allez, on y va. Et là, Timothée, on dirait que c'est un peu le contraire, quoi. On dirait qu'il a plutôt besoin d'être encouragé, édifié, fortifié. Et donc là, Paul, il donne son cœur à Timothée. Il écrit vraiment, Timothée, toi, mon enfant. Donc, il commence la lettre en disant, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi. À toi qui m'est vraiment précieux. J'ai envie de t'écrire de bonnes choses, des choses que tu vas te rappeler. Et j'aime lire Timothée, presque en changeant Timothée en disant Ruben. Ah Ruben, mon enfant dans la foi. Et prendre cette lettre très personnellement, et elle est très très personnelle. Et toute personne qui veut suivre Jésus, appropriez-vous la lettre au Timothée, surtout si vous avez besoin de courage, d'encouragement. Et pour qu'on puisse le faire, je vais aussi me présenter devant Dieu. Merci à Amité déjà d'avoir prié pour moi et pour vous. Mais je vais aussi le faire encore pour me présenter devant notre Dieu. Que sa puissance touche nos cœurs et qu'on puisse être transformé par sa parole. Comme Clément l'a rappelé tout à l'heure, la parole de Dieu est là pour nous transformer. On est là pour être transformé. Prions encore. Et là, notre roi, quelle grâce immense de pouvoir nous présenter devant toi. Et je veux me présenter devant toi. Besoin de ta grâce, besoin de ta force, ta puissance, ta bienveillance. Nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin de nous laisser guider par ton esprit, et c'est encore ce que nous demandons ce matin, ce soir, cet après-midi, pour que toi encore, tu sois celui qui façonne nos cœurs, nos âmes, qui nous façonne à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Béni sois-tu notre Dieu, que cette parole que nous allons lire transforme encore nos vies, relève ce que vous êtes relevé, reprenne ce que vous êtes repris, fortifie, encourage, éternel roi, en ton nom. Amen. Alors, l'apôtre Paul, qui, comme on l'a partagé tout à l'heure, est un homme d'action, a estimé qu'il était bon qu'Éphèse ait quelqu'un d'édifié, de mûr, pour continuer le travail que lui a commencé. Et donc, il a établi notre frère bien-aimé Timothée, là-bas. Et il écrit cette lettre pour lui rappeler quels sont les objectifs vers lesquels il est censé tendre. Beaucoup de choses à Éphèse. Des faux docteurs, des gens qui vivent dans le péché, diverses choses. Et Paul sent le besoin d'écrire à Timothée. Et donc il écrit à Timothée au verset 3, juste pour nous donner un petit peu de contexte. Comment est-ce qu'on arrive à ce passage de combat le bon combat, un verset qu'on a déjà entendu, hein, de combattre le bon combat. On a entendu diverses choses. Qu'est-ce que c'est combattre le bon combat? Eh bien, ce que je vous propose, c'est simplement regarder un petit peu dans quel contexte ce texte apparaît. Qu'est-ce qui a appelé Paul à écrire ce texte? On sait même qu'un frère bien-aimé qui passe souvent ici a fait de son blog le titre Le Bon Combat, hein. Certains écrivent dessus d'ailleurs. On va voir s'il a bien compris l'objectif de ce texte. Non, je rigole. Non, l'objectif vraiment, c'est qu'ensemble on puisse comprendre déjà sur quoi on doit baser le bon combat. C'est ce que Paul va dire. Qu'est-ce que le bon combat et comment mener ce bon combat? Donc, Paul, ici, il laisse Timothée à Éphèse et il dit, À mon départ pour la Macédoine, je t'ai donc, je lis le verset 3 de ce même chapitre, encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la loi. Donc il dit, il y en a certains, ils passent leur temps à discuter doctrine, même à discuter de mauvaises doctrines, fausses doctrines, à discuter généalogie, à avoir des discussions sans fin, inutiles presque même. Et c'est une interpellation. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la loi ? Il dit, le but de ces instructions que je te donne, l'objectif qu'on vise, au verset 5, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce qu'on vise, voilà ce que je vise, voilà ce que je vise quand je te dis ces choses-là. Un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. J'aimerais que ton amour, l'amour de ceux qui t'entourent, qui t'écoutent, l'amour de ceux qui entendent la loi, soit basé sur un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et il dit, il y en a qui se sont écartés, verset 6, il dit, certains se sont écartés. Et ils se sont éloignés de cette vision, et ils sont plutôt allés dans la discussion, dans les échanges, dans les discussions presque même inutiles. Et il dit, mais ils veulent être professeurs de la loi, donc ils veulent enseigner, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et même à ce qu'ils affirment avec assurance. Et c'est vrai que quand on lit un peu ces passages et qu'on voit qu'en fait Paul dit que la loi, elle est bonne et elle est faite pour corriger, pour transformer, pour parler à ceux qui sont sacrilèges, blasphémateurs, et donnera une liste de personnes qui transgressent la loi, les 10 commandements. Il reprendra l'idée des 10 commandements et il dit ceux qui transgressent cette loi, la loi est faite pour changer ces personnes-là. Et c'est vrai que parfois on peut prendre la parole de Dieu comme un livre intellectuel uniquement, comme un livre de discussion, d'échange, de partage, ce qui est bon, mais il ne faut jamais oublier ce pourquoi la loi est là, ce pourquoi la parole de Dieu est là. Le but, c'est de transformer les vies. Le but de la parole de Dieu n'est pas juste d'informer, n'est pas juste de donner des bonnes idées ou de mieux connaître des choses. Elle est véritablement de transformer les vies. Elle doit toujours, à un moment ou à un autre, s'appliquer dans notre vie. Il faut absolument que tout étudiant en théologie grandisse dans sa piété. Sinon, sa théologie est vaine. Sinon, ce qu'il a étudié n'a pas de sens. Parce que les instructions de Dieu, la connaissance de Dieu, l'étude de Dieu, théologie, a pour objectif de transformer nos vies. Donc il dit, attention, des hommes s'écartent de là. Et là il rappelle, il dit, la loi elle est faite pour transformer les personnes. Elle est faite pour ceux qui vivent dans le péché, pour qu'ils sortent du péché. Donc il donne une liste du verset 9 à 11. Donc là il le liste, il enchaîne. Malfaiteurs, rebelles, impies et pécheurs, sacrilèges profanateurs, tuerés père et mère, meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, homosexuels, trafiquants d'esclaves, menteurs, parjures. Tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. On est dans une dynamique de dire, toute cette liste-là, elle doit faire face à la loi. Elle doit faire face à l'instruction de Dieu pour changer. Et là, l'apôtre Paul donne un des merveilleux exemples de celui qui a changé, ben lui tout simplement. Au verset 12, il dit, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. » Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais avec ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et il continue en louant son Dieu et en disant, mais gloire à Dieu pour son sacrifice, gloire à Dieu pour sa grâce, gloire à Dieu pour sa grâce qui a surabondé. Et là, c'est un encouragement, il dit, ce que j'ai vécu, c'est un encouragement pour ceux qui vont vivre. Parce que moi, qui étais le premier des pécheurs, Jésus-Christ est venu pour pour me sauver et m'a même confié le service. Donc il dit voilà, moi j'étais un blasphémateur. Donc il pourrait rajouter en fait la liste de ce qu'il a fait. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Donc un homme qui était sous la colère de Dieu. Mais il m'a été fait grâce. Et maintenant je suis à son service. Et il dit, ça c'est un encouragement. Je sais pas si vous avez des histoires d'autres personnes qui sont des encouragements. Quand vous voyez leur vie, vous dites, vraiment là je vois la grâce de Dieu. Là je vois le Seigneur qui a vraiment transformé et qui est en action, non pas à cause de ce que cette personne a fait, mais vraiment par sa grâce et par son amour. Et moi j'ai un cousin qui était vraiment dans beaucoup beaucoup de péchés, il était vraiment même violent, on pourrait dire. Donc où il était dans la drogue, où il cherchait aussi des armes pour se protéger. Où son objectif, pendant que sa mère priait, lui c'était aller voir des nouveaux coups à faire avec ses copains. Et le Seigneur, quand il a transformé sa vie, quand il a touché sa vie, c'était vraiment un autre homme. Et je me rappelle aux fiançailles de ma sœur, où tout le monde était là pour chanter, pour avoir un bon moment, faire la musique, des animations. On vous dit ceux qui veulent faire des animations, levez-vous. Et lui, il se lève. Il avait encore des dreadlocks à ce moment-là. Il se lève et il fait « Alors moi j'ai été changé par Jésus. C'est ça que j'aimerais faire comme animation. J'aimerais vous raconter mon témoignage. » Et il donne son témoignage et moi j'étais juste là en me disant « Merci Seigneur, quoi. Quelle puissance, quel encouragement pour moi de voir quelqu'un qui était vraiment loin et aujourd'hui il a aucune honte de témoigner. Il se lève devant tout le monde, il y avait peut-être une centaine de personnes ce jour-là. Il se lève devant tout le monde et il dit « Voilà, moi ce que j'aimerais vous dire c'est comment le Seigneur a changé. » Et à la fin il fait un appel en faisant peur aussi aux gens qui n'étaient pas encore dans le péché. Mais voilà, quand on est sauvé, on sait qu'on a évité la mort, et donc on veut que tout le monde puisse vivre. Et peut-être que vous avez d'autres histoires comme ça. Tout à l'heure, je mentionnais ce frère qui a fait ce blog là, du Bon Combat. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent son histoire. C'est aussi une belle histoire où le Seigneur l'a sorti, même de prison, et l'a amené tout simplement à aujourd'hui être un évangéliste qui se forme pour servir Dieu à plein temps. Donc voilà des témoignages que Dieu veut qu'on se rappelle. Quand on parle de la Bible, on parle pas juste de faire du bien aux gens, on parle pas juste juste d'avoir des échanges intellectuels ou des bonnes discussions, on parle de transformation de vie. On parle de questions qui parlent de vie ou de mort. Et pas juste de vie ou de mort sur cette terre, de vie éternelle ou de mort éternelle. Et Paul ici dit à Timothée, « Timothée, mon enfant dans la foi, rappelle-toi pourquoi je t'ai mis là. » Il y a des gens, ils vont te détourner. Et nous aussi, dans notre vie, on a des situations, des choses qui vont nous détourner du premier objectif sur lequel on est. Rappelle-toi pourquoi je t'ai placé là. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Et là, c'est là qu'il entre, justement. Après avoir rappelé les dangers, des discussions vaines, après avoir rappeler pourquoi la loi est là et pourquoi la parole de Dieu est là, qu'est-ce qu'elle vise. Après avoir rappelé la puissance de Dieu à transformer les gens, en particulier Paul en premier, et après avoir loué son Dieu, il dit, verset 18, voici l'instruction que je t'adresse. Et là, il va lui donner quelques conseils très précis. Il va lui dire, conformément aux prophéties faites à ton sujet, précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat avec la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Et donc ce qu'on comprend de ce que Timothée, et c'est là que on aimerait rentrer justement dans le vif de notre sujet, comprendre de ce que Timothée a reçu, c'est qu'il a été établi, et des gens ont déclaré sur lui. Bon, diverses personnes ont définition de ce qu'est une prophétie, mais ce qu'on peut comprendre en lisant le Nouveau Testament, c'est des déclarations précises, inspirées de Dieu, sur des personnes. Donc pas forcément de ce qui va arriver demain, sur toi, pas donner l'avenir, mais en tout cas une inspiration de Dieu, qui vient de Dieu, et qui déclare. Et proclamation de ce que la parole de Dieu est. Et ici, Paul lui dit, t'appuyant sur ces affirmations que tu as eues. Donc on sait que Paul aussi a imposé les mains à Timothée, qu'il y a des prophéties sur lui. T'appuyant sur ça, alors combat le bon combat. Et c'est vrai que se rappeler ce qui nous a établi à un endroit peut aussi nous aider à aller de l'avant. Paul lui dit, appuyons sur ces déclarations que moi j'ai faites sur toi, ces déclarations que d'autres ont faites sur toi. Continue. Continue la course. Vise. Et je me suis dit, comment est-ce que moi ça peut me toucher? Alors je sais pas si beaucoup de gens ont eu des prophéties. Non? Sur eux. Non? Peut-être. Ils osent pas. Il y en a qui font non. Non, pas moi. Eh bien, je me suis dit, bon, si t'as pas une prophétie, est-ce que tu peux quand même avancer? Heureusement, oui, amen. Je vais vous dire comment. C'est que Dieu a fait des déclarations sur notre vie. Vous le savez ou pas? Quand tu es chrétien, Dieu fait des déclarations sur ta vie. Alors moi, j'ai cherché au début, je me disais, alors oui, je me rappelle qu'il y a un gars, il y a 15 ans, qui m'a fait cette prophétie, peut-être que... Non. Il y a des textes dans la parole de Dieu qui sont des déclarations sur nous. Il y en a énormément. J'aimerais vous donner, par exemple, Matthieu, chapitre 28. Verset 19 et 20. Ça, c'est une déclaration que Jésus fait à ses disciples, qu'il envoie dans le monde, mais il le fait aussi à chacun d'entre nous. Puisque c'est une réalité qui ne s'arrête pas juste pour ses disciples, mais qui est une réalité qui continue encore aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et là, la promesse pour chacun d'entre vous, frères et sœurs. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'aimerais que tu puisses te tourner vers ton voisin et que tu lui dises, Jésus est avec toi tous les jours. Jésus est avec toi tous les jours. Ça, c'est une déclaration. On peut reprendre Timothée. Timothée, parce que Jésus est avec toi tous les jours, combat le bon combat. Clément, parce que Jésus est avec toi tous les jours, combat le bon combat. Michael, parce que Jésus est avec toi tous les jours, combat le bon combat. Bon, je vais pas nommer tout le monde, hein, mais mais j'aimerais nommer tout le monde. Puisque Jésus est avec toi tous les jours, combat le bon combat. D'autres versets. Et j'aimerais que maintenant, vous puissiez vous rappeler d'une vérité qui est vraie pour tout chrétien. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser que les vérités que la parole de Dieu déclare comme des promesses sont vraies pour toute personne qui sont venues à Jésus. Donc il est important que chacun d'entre nous, on soit sûr qu'à un moment ou à un autre dans ma vie, j'ai remis ma vie, j'ai demandé, que j'ai confessé mes péchés, et j'ai accepté son pardon de Jésus-Christ. Parce que c'était pour ça qu'il est venu. Il a dit, je suis venu non pour des justes, mais pour des pécheurs. Si toi, tu te savais pécheur et que tu as accepté qu'il est venu pour te libérer de tes fautes, alors ces déclarations sont pour toi. J'aimerais qu'on puisse... Vous allez vous tourner vers votre voisin et vous allez chercher une promesse ou un texte qui vous a édifié, et j'aimerais que vous puissiez lui partager ça. Donc je vous laisse une minute pour réfléchir à un texte. Allez, deux minutes, d'accord. Pour réfléchir à un texte qui vous a encouragé et que vous puissiez le dire à votre personne qui est à côté de vous. Un encouragement que vous avez reçu de la part du Seigneur. Est-ce que tout le monde a trouvé et commence à partager? Alors, est-ce que c'est bon? Superbe. Peut-être juste deux personnes qui peuvent partager ce qu'ils ont reçu. Pas ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont reçu. Est-ce que quelqu'un peut partager? Il a dit, voilà, moi j'ai été encouragé parce que mon frère vient de me dire ce que ma soeur vient de me dire. Oui, vas-y, Michael. D'accord. Amen. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas parce qu'on se sait aimer? Je pense que beaucoup de couples auraient des témoignages de ce que vous avez pu faire de crazy quand vous avez su que vous avez été aimé ou que vous saviez que vous étiez aimé. Moi, pour me fiancer avec Priscilla, j'ai acheté un billet aller-retour Madagascar-France, Paris-Madagascar, pour rester juste. Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. Tout à l'heure, on a chanté « Je vis pour t'aimer, je vis pour te louer ». Je pense que ça, c'est un des premiers combats du chrétien. Développer sa relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et tout ton être. Combat le bon combat. Attache-toi à Dieu. Petite question personnelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui est une barrière à votre relation avec votre Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque cette relation avec votre Dieu? Combat le bon combat. Attache-toi à Dieu. Combat le bon combat, aime ton prochain. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'aimer ton prochain? N'oublie pas les promesses qui te sont données. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu l'amour de Dieu, tu as reçu toutes ces choses pour pouvoir combattre le bon combat. Combat le bon combat, édifie l'Église. Il y a un texte dans Romains 14, verset 7 qui dit « Nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. » Si nous vivons, nous vivons pour Dieu et donc pour notre prochain. Ce qui est formidable dans la parole de Dieu, c'est quand on regarde les textes, si tu vis pour Dieu, Dieu ensuite te pousse à vivre pour ton prochain. Cette notion de se séparer du monde pendant des années et ne vivre personne, en fait, c'est pas vraiment biblique. L'objectif, c'est de vivre pour son prochain. Si je vis pour Dieu, je vis pour mon prochain. Comment pourrais-tu continuer à vivre pour ton prochain? Comment pourrais-tu continuer à combattre le bon combat? Attache-toi à Dieu, édifie l'Église, étends l'amour de Dieu autour de toi. Et vous avez une occasion en or qui s'offre à vous prochainement pour étendre le royaume de Dieu, pour édifier l'Église, et pour t'attacher à Dieu, c'est atteindre sa mort. Youhou! Atteindre sa mort. Je crois que vous visez les trois choses, n'est-ce pas? Vous attacher à Dieu, édifier vos frères et sœurs, et étendre le royaume de Dieu. C'est une des façons de combattre le bon combat. C'était pas prévu, hein. On n'a pas fait de la pub avec les autres. Mais c'est une très très belle façon de le faire. allons-y, combattons le bon combat. Et parfois, on peut prendre ce bel exemple, hein, de se dire, mais il y a beaucoup d'autres choses autour. Timothée, n'oublie pas pourquoi je t'ai mis là. Priscilla, n'oublie pas pourquoi je t'ai mis là. Grâce, n'oublie pas pourquoi je t'ai mis là. Pour aimer ton prochain, t'attacher à Dieu, édifier l'Église. Ce sont des encouragements pour nous, pour ne pas oublier pourquoi nous sommes là. Et tout autour de nous nous encourage à oublier. Moi, je vois vraiment que, en fait, si ce n'est pas l'Église et les frères et sœurs qui nous rappellent ça, ce sera jamais le monde. Et jamais à la télé, vous verrez Patrick Poivre d'Arvor dire « Avant de commencer les nouvelles, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour aimer notre prochain, nous attacher à Dieu. » Ben, ce serait autre chose. C'est l'Église, c'est les frères et sœurs, c'est nous. On est là, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Rappelons-nous pourquoi nous sommes là. À la fin, il conclut avec des phrases assez dures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. Assez controversant. Controversé. Il dit, combat le bon combat. Il donne deux conseils très concrets qu'on regardera si on a le temps, mais j'aimerais surtout donner les derniers éléments. Cette conscience, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Combat le bon combat en gardant la foi. Donc ça veut dire en gardant confiance en Dieu, en sachant que ce qu'on a déclaré tout à l'heure reste vrai, toujours vrai, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, et une conscience pure. Quels sont aujourd'hui les péchés contre lesquels tu luttes, ou même que tu ne luttes plus, parce que tu les as laissés vaincre dans ta vie, qui souillent ta conscience? Hébreux chapitre 12 dira « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Et rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, en gardant une bonne conscience. La conscience pure du chrétien, frères et sœurs, est très importante. On sait que le pardon est là pour tous les chrétiens. Amen. Si tu es chrétien en Jésus-Christ, tu es pardonné et tu es sauvé. C'est une affirmation. Mais ta conscience, elle peut être torturée, peut être souillée, peut être malmenée. Et les conséquences d'une conscience non purifiée ont beaucoup de conséquences. Elles peuvent être un blocage dans ta vie chrétienne. Quelqu'un disait, l'amour de Dieu, ce n'est pas mon obéissance. Son amour n'est pas dépendant de mon obéissance. Mais mon expérience de son amour est dépendante de mon obéissance. C'est-à-dire que l'amour de Dieu ne changera jamais pour toi, même si tu chutes, même si tu tombes, même si tu t'éloignes. Par contre, ton expérience de son amour va être toujours plus pleine lorsque tu t'engages, lorsque tu te donnes, lorsque tu te consacres. Mais va aussi être bloquée lorsque tu t'éloignes, lorsque tu oublies, lorsque tu te souilles. Il y a un blocage dans la vie chrétienne lorsqu'on laisse notre conscience non purifiée. Alors, ne partons pas de cette salle sans se dire « Seigneur, je veux traiter ce problème de conscience dans ma tête ». Aujourd'hui, un des grands problèmes qu'on a, c'est tellement simple, c'est la pornographie, par exemple, ou tout simplement les pensées souillantes. Parfois, les femmes dans la rue ne nous aident pas, la façon dont ils s'habillent. Mais en tant que chrétien, on est appelé à avoir cette conscience pure. Que le Seigneur nous donne de déposer ça à ses pieds, de dire « Seigneur, je ne veux pas laisser ça souiller ma pensée ». Et bloquer mon bon combat. Parfois, certains vont même plus loin. Parce qu'ils ont dévié, qu'ils se sont donnés à des doctrines, ou même se sont donnés au péché tout simplement, eh bien, ils deviennent un danger même pour l'Église. Et c'est pour ça que Paul aura ces phrases très très dures. Certains ont abandonné cette bonne conscience. Elle les gêne même plus d'être dans le péché en fait. Ben à un moment, il faut savoir exclure. Bon, là, on rentre dans la notion de discipline d'Église. Et Paul parle aussi du haut de son rôle d'apôtre. Ils avaient une certaine autorité que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend et ce que nous, on peut attirer d'aujourd'hui, c'est cette notion de dire parfois, le péché est tellement accepté par certains dans leur vie que l'Église se doit de dire tu es un peu un danger pour les frères et sœurs, en acceptant ta façon de vivre, en disant non, ça me gêne pas. Et c'est pour ça que Paul parle parfois d'exclure des personnes. Ça doit faire dans la. Il y a des étapes importantes, mais l'esprit est toujours l'amour et reprendre la personne. Et à un moment, Paul parle de mettre les personnes sur le côté. Je veux pas parler de discipline d'église, mais je veux parler de parfois les conséquences que accepter une mauvaise conscience ou ne pas changer dans certains domaines que des gens nous ont dit, écoute, tu es un peu comme ça, tu manques de patience vis-à-vis des gens, tu es un peu orgueilleux peut-être, ou tu es un peu paresseux au contraire, ou tu n'écoutes pas quand on te parle. Parfois, en laissant ça, Paul sait qu'il y a un grand danger. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, son enfant dans la foi, qu'il a formé, qu'il a forgé, il dit, fais attention. N'essaye pas de t'éloigner. Reste focalisé, fixé sur le but, le bon combat. Rappelle-toi les belles promesses que tu as eues. Garde la foi et garde une bonne conscience. Conscience pure. Et on a beaucoup entendu à Madagascar, nous, à Madagascar et à Madagascar et en France, on a beaucoup entendu le ministère, même aux États-Unis, le ministère cassé parce que des personnes ont accepté des péchés dans leur vie et les ont laissés traîner alors qu'ils savaient que c'était pas bon. Et à un moment, ça a détruit l'œuvre. C'est pour ça que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nous dit, rappelez-vous des promesses que vous avez reçues. Rappelez-vous peut-être du verset qui vous a fait du bien tout à l'heure. Rappelez-vous des belles choses qu'on a reçues et restez focalisés sur le but. Combattre le bon combat. Vous attacher à Dieu, étendre le royaume de Dieu. Donc les dons sont différents, en particulier à travers l'enseignement et la prédication, et édifier l'Église. Restez focalisés sur cela en gardant une foi sincère et une bonne conscience. Et grâce à cela, le royaume de Dieu va s'étendre. Et encore une fois, ce que Paul dit juste avant, il dit, vous savez, c'est pas à cause de ce que nous sommes ou ce que nous faisons que tout cela est possible. Il dit, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sauvé, moi qui étais un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur. Et c'est lui qui m'a mis à son service. J'ai envie de dire, c'est la même chose. C'est pas parce que vous êtes fort dans le fait d'obéir que Dieu va vous mettre à son service, c'est parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut que chacun d'entre nous puissions rentrer à son service. Comme mon cousin qui aujourd'hui se forme en théologie, comme Guillaume Bourin qui aujourd'hui se forme en théologie, comme d'autres qui savent que ce n'est pas leur mérite, comme moi-même, c'est pas nos mérites. Et c'est Dieu qui nous a établis à son service. Donc, prions les uns pour les autres et laissons le Seigneur transformer nos vies. Je vais terminer par la prière. Et si des gens ont dans leur cœur quelque chose qui dit, Seigneur, j'ai envie de retrouver le bon combat, on va prier, et vous allez juste lever la main pour dire, prie pour moi Ruben, maintenant. Donc on va baisser la tête, et je vais juste demander, est-ce que des personnes veulent que je prie particulièrement pour elles pendant que les têtes sont baissées? Vous voulez lever juste la main, comme ça je vous vois. Oui, merci. Très bien, d'accord. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu vois ces personnes qui ont levé la main et celles qui lèvent encore la main. Tu vois qu'ils veulent retrouver le bon combat, notre roi. Tu vois qu'ils veulent retrouver ces promesses que tu donnes à chacune d'entre elles. Et tu vois qu'ils veulent, éternel roi, rester focalisés sur toi. Nous savons que toutes ces choses sont possibles, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. Je te prie de ce fait, d'établir ces personnes à ton service, non pas à cause de leur mérite, mais à cause de ta grâce. Je te prie de ce fait, de permettre à ces personnes de garder le bon combat, de garder la foi et une bonne conscience. Et je te prie, éternel roi, que tous ceux de cette église qui te connaissent et qui t'appartiennent continuent à étendre ton royaume en particulier pour cette semaine et à atteindre sa mort. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Merci pour ta bonté. Entends-nous. Amen. Nickel.